Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Pour chier dans quelqu'un, c'est toute une infrastructure pour moi. Où tu mets le corps, comment tu fais pour que...
Oui,
tu vois,
puis c'est petit, hein, larynx et tout, tu vois.
Ouais.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
J'ai toujours peur de tester, moi, d'être jugé, de m'exposer. Mais si tu testes pas, tu construis pas. C'est une peur nécessaire, quoi. C'est obligatoire. Ça change pas. Après, t'arrives de plus en plus à mieux gérer cette peur. La peur, elle s'en va pas. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que tu vis des sensations, quoi. Sinon, y a pas de satisfaction. S'il y a pas d'obstacle, y a pas de satisfaction, quoi.
Yacine Bellous est mon invitée dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. Vous le savez peut-être, Yacine est une des personnes les plus drôles de France. Il fait de l'humour assez surréaliste avec des dragons qui parlent et des chevaux qui meurent dans les chattes de toutes vos mères. C'est complètement absurde mais c'est très très drôle. Pour le petit historique, il a fait partie de la première saison du Jamel Comedy Club. Il a participé à pas mal de galas montreux, il a joué dans Bref, il a écrit plusieurs web-séries comme Le Trône des Frogs ou L'Histoire racontée par des chaussettes, qui sont des vidéos qu'il fait avec des dos ou des marionnettes en chaussettes racontent des grands moments de l'histoire. C'est vraiment très marrant. Il a aussi écrit et réalisé un documentaire sur le stand-up qui s'appelle « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» qui est dispo sur Netflix, où en fait il va parler à des humoristes du monde entier comme Bill Burr, Blanche Gardin, Eddie Izzard, Mike Ward et plein d'autres pour voir comment l'humour traverse les frontières. Et là il se trouve que depuis quelques mois, Yacine est en pleine écriture de son prochain spectacle, donc fin de l'été dernier, je l'ai invité au Kings of Comedy Club à Bruxelles pour qu'on puisse roder quelques blagues ensemble et forcément bah, on en a profité pour enregistrer un épisode des gens qui doutent et parler de plein de trucs. De comment s'habiller sur scène, ce qui peut paraître vraiment bête, mais en fait c'est pas toujours facile d'être à l'aise dans ses vêtements et dans son corps sur scène, de son projet de triptyque de spectacle dont il a déjà sorti le premier volet 2021, d'écriture, de comment il a modifié certains sketchs pour les faire rentrer dans un spectacle qui a un fil rouge, de comment on écrit de l'absurde, de la peur de tester des nouvelles farces et de la façon dont ses blagues évoluent au fur et à mesure des scènes. On a aussi parlé de ses meilleures insultes, il est très très fort là-dedans, des prochains épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes, de l'importance de reposer le cerveau du stand-up. Et il m'a raconté un des plus gros beats de sa vie en anglais dans un bled au fin fond de l'Allemagne où il était programmé entre un jongleur et un cracheur de feu. J'espère que ça vous plaira.
Du coup, je me rapproche un peu pour avoir un peu de mou de micro, ça t'embête pas, parce que sinon ça tient. Sauf si vraiment, c'est pas possible. Vu que mon anxiété, c'est de sentir mauvais. En fait, cette veste semble vraiment mauvais. Hein. Un peu, vite fait. Tu sais, quand la lessive, tu l'as pas sortie assez vite.
Ouais.
Et ça sent un peu l'humidité, un petit peu. Elle est pas au stade maximum de ça, mais elle est au stade du début prémisse.
D'accord.
Donc, faut être
vraiment
vigilant.
Les 10 minutes de trop.
Cette veste, voilà. Faut être vigilant avec cette veste. Ouais. Faut pas la mettre partout.
D'accord.
Je jouerai quand même avec, parce que je me sens bien avec une veste sur scène. Mais.
Ah ouais? T'as pas chaud?
J'ai chaud.
Ah.
J'ai chaud, mais je me sens mieux avec une... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des problèmes d'habillement, de stand-up.
Ah ouais?
Je te jure, j'ai toujours eu des questions sur les vêtements, je sais pas, j'ai jamais su m'habiller correctement. Moi, au début, le podcast a commencé là, d'accord, ok.
Non, mais là, je couperai.
Non, tu fais ce que tu veux, mais on peut commencer comme ça, hein. Ça fait très américain, ça fait très... oh, it's on, alright, ok.
Vous étiez là.
D'ailleurs, la première fois où j'ai acheté un vêtement spécial pour le stand-up, c'était en Belgique, et c'est Amel Chabi qui me l'a choisi. Parce que moi, je m'habillais, il faut comprendre que moi, j'étais à l'université Paris 8. J'étais à l'université, et donc, en gros, c'était un truc où si on faisait du théâtre, c'était un peu babos, quoi. Mmh. Et donc, moi, j'ai jamais fait attention à ma manière de m'habiller, vraiment. J'avais des t-shirts beaucoup trop grands pour moi. J'avais des pantalons Dockers beaucoup trop grands pour moi. Mmh. Je portais des Campers, tu vois, que je porte encore des Campers. Mais pour le stand-up, j'étais pas fashion du tout. Mmh. J'étais pas, genre, bien habillé. Et en fait, on m'a dit, mais gars, t'es habillé comme un sac à patates, quoi. C'est n'importe quoi. Et comme tu joues devant des gens, faut quand même qu'il y ait un peu d'élégance ou une sorte de respect du public. Ce qui est une idée fausse, hein, parce que voilà, tu t'habilles comme tu veux, en vrai. Mais du coup, j'ai acheté un polo à rayures pour jouer en Belgique quand on avait fait la première tournée du Jamel Comedy Club.
Ah, c'était même pas pour une capta, c'était vraiment juste pour jouer.
C'était pour jouer, parce que vraiment, les gens m'ont dit, tu ne peux plus monter avec ces t-shirts Célio, c'est plus possible.
Ah, un t-shirt Célio, ça va pas ?
T-shirt Célio, c'est interdit apparemment.
Oh merde.
Mais en 2006, c'était interdit.
Ah, bah, du
mais
coup,
les t-shirts Célio, en général, les gens aiment pas Célio.
Ah ouais ?
Ouais, ça a une mauvaise réputation, ça fait un peu, je sais pas, ringard et tout. C'est pas à la mode Célio, c'est pas hype du tout.
J'avais compris. Moi, les captas, je suis toujours, ok, je vais faire un peu gaffe et tout. Puis quand je revois la capta, je suis comme, waouh, ça va pas du tout.
Hein. Ouais, hein.
Ça va pas du tout.
C'est dur hein, de choisir des vêtements pour jouer.
Mais en fait, je trouve que j'ai toujours l'air beaucoup moins à l'aise dans quels que soient les vêtements que je porte que les autres gens. Ils ont l'air de trouver ça tellement facile de juste être bien dans leur corps et bouger.
Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'ils bossent dessus et que moi, je crois pas que les gens ils sont détendus.
Ah ouais?
Non. Mais c'est comme plein de choses dans la vie. Ils veulent pas admettre qu'ils réfléchissent à ça. Mais en fait, ils réfléchissent tous de ouf. Ils se prennent la tête. C'est certain. Je crois pas que les gens sont naturellement détendus avec comment tu t'habilles dans la vie. C'est une galère. Moi, je suis jamais à l'aise avec mon corps. Je fais 1000 essais. J'essaye des trucs et j'ai pas beaucoup de, je sais pas comment dire, j'ai pas beaucoup d'options, quoi, dans ma tête. Il y a des gens, ils connaissent plein de boutiques, plein d'endroits, des créateurs, ils font des collabs. Tu vois, j'ai rien de tout ça, moi. Je suis vraiment en galère. Vraiment. Mais ouais, c'est hyper dur de s'habiller correctement sur scène. Et c'est, en plus, comme tu dis, quand t'essaies de bien t'habiller, tu deviens un personnage
ouais,
que t'es pas.
J'ai l'air d'être un clown en permanence dès que j'essaye des trucs un peu.
Quand je me revois, la dernière fois, je me suis revu sur un DVD du Comedy Club au Casino de Paris. J'avais une chemise noire avec un col, tu sais, col, pas col Mao, et un jean. Tout ça était pas à moi, en fait. On me l'avait passé parce que c'était une émission filmée. Et moi, j'étais là, mais ça n'a rien à voir avec comment je m'habillais à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, le seul effort que je fais, c'est que j'essaye de mettre des vêtements que je porterais dans la vie. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un personnage qui est pas moi, quoi.
En vrai, t'es venu à Bruxelles, pourquoi ?
Mais je suis venu beaucoup pour travailler un nouveau spectacle que j'aimerais bien faire pour le mois de décembre. C'est-à-dire que j'aimerais avoir une nouvelle heure en décembre 2022 pour un spectacle que donc j'appellerais 2022 a priori. Et l'idée, c'est d'essayer de continuer dans ma lancée d'écriture. J'ai fait un spectacle en 2021. Comme j'avais pas vraiment de titre, je l'appelais 2021. Les gens se sont un peu moqués, un peu dit « Ah, c'est cool, c'est rigolo. Bah, l'année prochaine, tu fais 2022. » Et j'ai dit « Bah, pourquoi pas ?» Et donc voilà, je suis parti là-dessus.
Et ça va être une sorte de triptyque, a priori.
Je vais peut-être, si j'arrive en fait à faire 2022, peut-être j'essaierai encore une fois d'en faire un autre. Puis, mais tu vois, je ne sais pas, je reste modeste, t'as vu, je doute, c'est le bon endroit. Je respecte vraiment le fait que c'est très 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 possible que ce soit pas bien. Mais a priori, je vais pas lâcher l'affaire jusqu'à voir le résultat. Moi, j'adore ce que je fais en ce moment, je trouve ça cool. Je suis content des retours que je peux avoir à droite, à gauche de copains. Après, faut vraiment que je bosse et on s'en reparle en décembre, quoi. J'aime pas trop me projeter. Ça porte malheur, t'as vu? C'est de dire, ouais, je fais ça, après je ferai ça, après je ferai ça.
Bon, ça dépend, parce que des fois, le fait de dire ça tout haut, ça te force un peu à te bouger le cul parce que tu dis, ouais, sinon je vais passer pour un nul, quoi.
Et c'est exactement ce que j'ai fait à dire à des gens que je veux faire un nouveau show. Mais j'ai pas dit que je l'aurai et qu'il sera incroyable.
Okay, ouais.
À chaque fois, je précise, je sais pas ce que ça va donner. Mais par contre, c'est vrai que je me suis tout seul mis dans la merde à annoncer à tout le monde en janvier. Oh ouais, je repars sur un nouveau show là. Je fais un nouveau show. Et vraiment, dans chaque conversation, je l'ai placé. Mais pour moi, pour me mettre en galère en fait, pour que je sois un peu obligé de le faire.
Ok, donc tu ne marches qu'à la culpabilité, promesse, culpabilité.
Ouais, ça marche bien la culpabilité avec moi. Ça fonctionne pas mal.
et 2021, il avait été écrit dans un contexte un peu particulier, vu que c'était après le Covid.
Ouais.
Et que t'avais écrit vite en sortant du Covid ou t'avais écrit pendant le confinement?
Non,
ou...
j'avais écrit assez vite. En fait, j'avais des bouts écrits précédemment dans, que j'avais testé dans les soirées première fois ou que j'avais même rodé un peu en 2017, 2018, mais des 3, 4 minutes, 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Et je les ai regroupés pendant le Covid parce que j'avais fait une captation d'un précédent spectacle. Cette captation étant terminée, j'étais content, mais j'étais pas satisfait à 100%.
C'était laquelle?
C'était un spectacle qui s'appelle Yacine joue son spectacle, où j'étais en peinture, tu sais, oui, dans une affiche où prince, j'étais en peinture.
Ouais.
Et cette captation-là, elle était cool, mais pendant le Covid, comment dire, j'étais vraiment déprimé, quoi. Je savais pas ce que j'allais faire. Donc, soit, comme il n'y avait pas beaucoup, il faut se remettre dans le contexte, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Il y a plein de gens même qui disaient, on ne sait pas si les salles vont réouvrir, on ne sait pas si ça va être banqueroute pour, tu vois, pour les clubs qui viennent d'ouvrir, etc. Alors que 2019, c'était l'Eldorado, tous les clubs ouvrent, enfin c'est super. Et là, je me suis dit vraiment, soit j'arrête, et en mode dépression, hein, vraiment. Soit j'arrête, soit je trouve la force de repartir, mais avec une autre mentale, quoi. Notre manière de réfléchir. Et c'est ça 2021. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, en fait, j'aime vraiment bien le stand-up. Là, je suis déprimé de ouf chez moi, mais j'aime vraiment bien le stand-up. J'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer. Je crois que c'est un truc que j'aime réellement. Donc, c'est d'ailleurs ce que je dis dans 2021. J'ai de la chance de faire un travail que j'aime, etc. J'insiste beaucoup sur ça. L'intro du truc, c'est ça. Je suis trop content de rejouer. Mais j'avais pas de spectacle. Donc, j'ai été rechercher des bouts que j'avais rodés. J'ai cherché des bouts que j'aimais bien. Je devrais faire une dédicace à Freddy Gladieux parce que dans une interview, il a dit « Ouais, j'ai vu un spectacle de Yacine il y a longtemps, en 2012, où il faisait un truc avec un dragon, c'était incroyable, c'était trop rigolo. Je comprends pas pourquoi il l'a pas capté, ce truc-là. » Moi, j'étais dans ma cuisine quand j'ai écouté cette vidéo qu'on m'a envoyée. Mmh. Et moi, j'étais là « Ouais, c'est vrai. Pourquoi je peux capter le truc avec le dragon? C'était rigolo. » Et j'étais là « Eh bien, ouais, Freddy, merci, tu déchires. » Mais il était pas dans la cuisine. Et donc... Par cet encouragement indirect de vidéo, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, mais j'ai du matos qui est rigolo, j'ai des blagues qui sont fun, mais je les ai jamais filmées. Réfléchis à ce qui t'a fait kiffer ces derniers mois. Pourquoi pas agglomérer le tout et voir combien de temps t'as. Et après, en fonction de ça, combien de temps il te reste à faire. Et franchement, j'avais pas mal de temps, en fait. J'avais à peu près la moitié du show. Mais pas organisé, pas bien fait, pas bien rodé, en fait. Pas bien fluide. Il y avait pas des rires tout le temps, etc. Comme nous, on aime bien, tu sais. C'est dur de faire genre...
Il faut se rassurer sur le fait que les gens nous aiment toutes les 10 secondes max.
Non, mais ouais, tu sais, tu vois, qu'il n'y ait pas trop genre 2 minutes où il n'y a pas, ouais, y a pas un rire. Il y a toujours une petite blagounette en plus, tu vois. En général, les comiques aiment bien, en tout cas. En général. Donc, à partir de là, je dis, hey, peut-être tu peux partir de ça comme base. Et let's go, on voit ce qui se passe, quoi. On tente. Et j'ai avancé bon an mal an en me disant, on va voir, petit bout par petit bout, sans mettre la pression. Ou en tout cas, la seule pression que j'avais, c'était l'ambition de le faire. C'est exactement ce que je dis là avec 2022. C'est, j'aimerais vraiment bien le faire. Mais si ça n'arrive pas, j'accepterai. Mais je vais tout faire pour le faire. Et je vais tout faire pour que ce soit le mieux que je peux, avec toute l'énergie possible. Et ça a marché. Ça qui était cool, c'est que 2021, tout a été fait de manière extrêmement artisanale. Et j'en suis très heureux. C'est-à-dire que j'ai écrit des bouts dans première fois. J'ai pas d'auteur, j'ai pas de gens en plus. Première fois, c'est moi-même qui organise la soirée. Donc, si tu veux, c'est aussi une part de moi qui fait que je me suis donné l'outil pour créer le truc. Et ça m'a permis d'agglomérer des bouts que j'ai rajoutés à cette 20-30 minutes que j'avais déjà. Ensuite, je me suis organisé des dates à droite, à gauche, mais en totale indépendance, parce que je suis en indépendant, moi. J'ai pas de prod.
Ah, pour le spectacle complet aussi?
Ah, mais ouais. Ah, c'est okay. Moi qui ai tout organisé, tout seul.
Okay.
C'est moi qui ai pris rendez-vous avec la salle, c'est moi qui ai capté le spectacle, qui a été loué les caméras, qui ai placé des bouts de lumière avec l'ingé de l'européen, qui est booké l'européen.
Et pourquoi?
Parce que j'ai pas de prod, parce que je me suis jamais senti complètement dans le même état d'esprit que les prods avec qui j'ai discuté. Après, moi, je suis ouvert. S'il y a des prods qui écoutent ce podcast et que vous êtes très riche et que vous voulez investir sur Yacine Bellous, n'hésitez pas. Mais ouais, je suis en indé. Et pour l'instant, ça m'a permis en tout cas de faire 2021. J'aurais jamais pu faire ce show si j'avais été en prod, je pense. Parce que si j'avais été en prod, les gens m'auraient dit, mais c'est un peu con, tu vas pas faire un show Et puis après, on le rentabilise pas assez. Et je les comprends, et ils ont raison. Mmh. Et c'est sain de penser comme ça. En revanche, moi, c'est pas ce dont j'avais besoin. J'ai fait un truc dont j'avais réellement besoin. C'est-à-dire de me dire, vas-y, je suis épuisé, moralement, ça va pas. Essaye d'exorciser ce qui va pas sur scène. Fais-le le mieux que tu peux. C'est quand on se disait ne pas se sentir bien dans son corps. Mmh. Moi, 2021, j'avais pris beaucoup de poids. Et dès que j'en parlais sur scène, quoi. Et j'étais pas à l'aise dans mon corps. J'étais pas à l'aise dans mes vêtements du tout. Et j'étais là, hey, vas-y, c'est moi. Maintenant. Donc, je vais être au mieux de moi maintenant. Je vais pas faire semblant d'être un autre gars. Mmh. Je vais être moi, quoi, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait des rumeurs de reprise du Covid. Il y avait plein de cas de Covid au mois de décembre. Je me disais, ah, les gens, peut-être, ils vont pas venir. Oh là là, les pauvres, ils vont avoir peur d'être dans une salle sans masque. Tu sais, c'était pas obligatoire d'avoir des masques. Et donc, oh là là, les pauvres et tout. Et finalement, bah, on a été complet. Mais genre, le jour même, tout a été fait le jour même.
Ah ouais?
Ouais, on a été complet, mais, je sais pas, à 19h. Mmh. À 19h, on m'a dit, c'est bon, on est sur complet, c'est super. Alors, j'étais super. On a capté le show, ça s'est passé correctement. Après, c'est moi qui ai fait le montage du 2021. Donc, j'ai passé 3 semaines à monter. J'ai envoyé à la chaîne. La chaîne m'a dit, super, on est très contents. Et au fur et à mesure, bah, les gens m'ont fait des bons retours. Moi, je savais même pas. Moi, j'étais vraiment en mode, moi, je veux juste faire un show. Après, on m'a fait des bons retours, on m'a dit, c'est bien. Et après, j'ai eu une super critique dans Télérama quand c'est passé à la télévision, parce que c'était Télérama TV. Et donc là, j'ai eu 4T. J'étais les premiers 4T de Télérama. Oui. Et donc après, j'ai eu encore des félicitations de copains. Ils me disaient, ah, c'est cool quand même si t'as eu 4T et tout. Bien, ouais, ça fait plaisir. Et j'ai eu beaucoup de trucs positifs qui se sont passés. Mais sur le coup, j'avais aucune ambition autre que mener à bien le projet jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Et quand t'hésitais au moment du confinement et tout, entre, enfin, le switch entre soit juste j'arrête, soit je continue, mais je le fais très bien du mieux que je peux, le plus que je peux, qu'est-ce qui t'a fait switcher de ce côté-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'accrocher, quoi qu'il arrive?
Bah, en fait, c'est plus avoir, en fait, c'est d'abord ta envie. Ça a été d'abord avoir envie. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que t'aimerais bien faire, tu sais? Parce que quand je suis dans une phase où je suis pas bien, j'essaye de me dire, bon, le seul moteur qu'on a, c'est quand même nos envies, nos pulsions, nos besoins, tu vois. Et où est-ce que tu pourrais aller, quoi? Parce que tu sais, c'est comme si t'avais des portes que t'avais envie de fermer, ou des endroits où t'as plus envie d'aller. Quand je dis des endroits, c'est des espaces mentaux, comme diraient les jeunes. Quel espace mental? T'es dans un espace mental un peu étrange en ce moment. Eh ben moi, j'avais plus envie de fournir certains efforts pour me retrouver dans des situations où il n'y avait pas de sens. C'est-à-dire que des fois, je me suis retrouvé dans mon métier. Alors, je peux essayer de trouver un exemple maintenant, mais ça va être un peu compliqué. Mais il y a des moments dans mon métier où je me suis dit, là, ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. Ça n'a pas vraiment de sens, tu vois.
Okay. Même dans le stand-up, tu
absolument.
Ressentais...
Ah ouais, que ce soit dans le stand-up, dans les sketchs que j'ai pu faire. Dans, tu vois, par exemple, quand je fais les chaussettes avec des dos, je sais que ça a un sens. Parce que j'ai des retours des gens qui regardent les chaussettes. Je sais pourquoi je le fais. Je sais que c'est original. Ça m'amuse. C'est bizarre. Il y a plein d'éléments là-dedans qui me stimulent et qui donnent du sens au projet pour moi. Ça ne veut pas dire le sens en général. C'est chacun de ses affaires. Mmh. Je parle que pour moi. Hein. Ouais. Juste pour moi. C'est que perso.
Juste l'impression d'être à la bonne place, quoi.
Oui, moi, je me sens bien, en tout cas, là-dedans. Ça ne veut pas dire que le truc est super ou que le truc est nul. C'est juste moi, personnellement, dans ma petite vie à moi. Et donc, pour le stand-up, ben, je suis trop content quand les gens rigolent, moi. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est eux qui définissent pourquoi ils aiment bien. Mais moi, fallait que je trouve un sens pour pourquoi le faire. Sinon, j'étais mal, en fait. Mmh. Je n'avais plus envie de faire des trucs qui, pour moi, n'ont pas... en tout cas, à ce moment-là, je ne pouvais... J'étais tellement pas à l'aise avec le monde qui avait perdu beaucoup de sens. Parce que... On a vécu des confinements, des enfermements, des règles, des dérèglements. On arrête maintenant cette règle. Ah, maintenant, on a une nouvelle règle. Mmh. OK. Ah, au fait, tout le monde panique. Ah non, en fait, tout va bien. Ça va, l'économie va se crasher. Non, c'est bon. C'est OK. Tu vois ce que je veux dire? C'était trop de phases stressantes les unes avec les autres. Moi, j'avais besoin de construire un petit chemin à moi qui me permettait de comprendre pourquoi je le faisais. Et ben, le stand-up, moi, j'aime bien ça. Je dis, est-ce que t'aimes toujours bien ça? Ouais. C'est juste des cas de figure dans lesquels je me sens pas à l'aise. Super, bah peut-être on peut éviter ces cas de figure, on n'est pas obligé de se les imposer. Ouais. Est-ce que t'aimerais bien faire un show? Ouais. Par contre, va falloir tester beaucoup, écrire beaucoup, se foutre la honte, parce que ça fait partie du processus de tester. Après, des fois, c'est pas bien. Ou, tu vois, hier, on a fait deux shows. Il y en a un qui était bien, l'autre qui était pas ouf, tu vois. Mmh. Et c'est toujours un peu gênant, parce que, quoi qu'il arrive, tu es en représentation de, mais faut accepter, faut dire, bah, ok, des fois, c'est super, des fois, c'est pas ouf. Et je me suis dit, franchement, je veux bien tenter, quoi, pour voir déjà si je peux réécrire. Et puis, ça a du sens de construire quelque chose. C'est de se dire, je mets des petites briques sur un truc. Donc, ça m'a fait kiffer. Et en plus, j'ai eu des bons résultats. Donc, du coup, j'essaye de me dire, attends, t'as bien aimé, reproduis l'aventure. Est-ce que t'as envie de reproduire l'aventure? Ouais, c'est rigolo. Ça, c'était fun de le faire. C'était dur de ouf. C'était casse-couille à des moments. L'organisation du show, savoir si ça va remplir. Est-ce que je peux roder mon show avant dans des endroits? Essayer de respecter les gens quand tu rôdes aussi, parce que j'aime pas roder, faire des trucs pétés devant les gens, tu vois. Je veux quand même qu'ils en aient pour leur déplacement, l'investissement que eux, ils mettent dans la soirée, tu vois. C'est même pas qu'une question de sous. C'est une question de vas-y, t'as pris une soirée, quoi. Tu vois?
Ouais.
Donc c'est relou.
Ouais, y a des gens, ils ont leur bagnole, ils ont une babysitter et tout.
Ouais, tu vois le délire.
Pour venir te voir essayer de faire ton métier.
Voilà, exactement.
C'est chelou d'ouf.
Donc, pareil. Donc, voilà. Une fois que t'as fait tout ça et que tu t'en sors, mais j'étais trop fier de moi, j'étais content. Mais c'était entre moi et moi, si tu veux. Et j'aime bien raconter l'histoire aux gens. Mais c'est entre moi et moi, c'est-à-dire que j'ai pas gagné $1 million, j'étais pas, je sais pas où, on m'a pas dit viens faire une tournée, je ne sais quoi, mais j'étais juste, je suis parti de j'ai pas de spectacle à j'ai un spectacle, je le filme, je le capte, je fais tout seul en un an, et le spectacle il est super, moi je suis content, enfin je suis content du résultat que j'ai eu en peu de temps, quoi.
Et tu l'as joué combien de fois du coup?
Je l'ai pas joué beaucoup de fois, je crois que je l'ai joué moins de 20 fois.
Okay,
peut-être une quinzaine de fois en fait.
Mais du coup, c'est quoi pour toi la...
Mais c'est pas forcément une bonne idée, hein. Je tiens à préciser. Je suis pas fier de cette idée, hein. C'est pas très malin sur un plan financier.
Oui.
C'est pas malin pour plein de raisons, mais pour moi, ça avait du sens. Mmh. Voilà.
Mais ça dépend, parce qu'en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est vers des formes hybrides comme ça qu'on se dirige, parce que ce truc de tu fais ton premier spectacle, tu le joues pendant 5 ans parce qu'il faut que tout le monde apprenne à te connaître, machin, puis t'en refais un deuxième. Enfin, ça va vite saouler les comédiens, j'ai l'impression.
Je sais pas, c'est possible, mais je crois qu'il y a des gens qui se portent bien dans cette économie-là. Moi, j'ai pas l'impression d'être tout à fait pour le moment, en tout cas, prêt pour ce chemin-là. J'ai essayé de l'emprunter, hein. J'ai essayé d'avoir un show, j'ai essayé de jouer le jeu du truc, mais quand tu disais t'étais mal dans tes vêtements, ben j'avais l'impression, là je me suis jamais aussi senti moi que là, parce que surtout en fait il y a que, en fait là tu parles d'un truc où il y a toute une équipe autour de toi, et c'est vraiment tu décides si t'es artisan ou si tu travailles avec je sais pas un staff, quoi.
Ouais.
Et moi j'ai plus l'impression d'être un cordonnier sympa mais qui fait de l'oseille. Les cordonniers, ils gagnent bien leur vie, hein. Tu vois,
je leur souhaite.
Mais ouais, mais si t'es un bon cordonnier, c'est sûr que tu gagnes de l'argent. Si t'es un bon, si t'es un bon artisan, tu peux gagner de l'argent. Parce qu'après, il faut savoir où vendre ce que tu produis. Il faut savoir, tu vois, faire la démarche d'être en indé. C'est être indépendant, c'est compliqué, mais tu peux gagner de quoi vivre. Moi, je pense. Y a pas de raison. Donc, c'était peut-être pas un bon exemple, les cordonniers, parce que c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de cordonniers, mais. Moi, j'aime bien ce délire de l'artisanat. C'est comme ça que je vois le truc pour le moment. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent avoir des prods parce que tu vas avoir plein de conseils, tu vas avoir un encadrement, mais tu vas avoir aussi plein de contraintes qui sont liées à l'argent, qui sont liées à des ambitions que tu comprends pas forcément. Puis il y a de la politique à l'intérieur de tout ça qui peut être très complexe à gérer si tu comprends pas. Moi, je comprends pas grand-chose. Je suis un peu teubé sur ça, mais maintenant, j'assume vraiment bien. Je dis, je capte pas toutes les relations.
Moi, perso, j'aime bien la prod, déjà parce que je bosse avec des gens que j'aime vraiment en tant qu'humain. Et puis parce que c'est l'espace mental que ça dégage de ne pas avoir à penser, genre concrètement, que ça remplisse, que ça remplisse pas. Oui, pour moi, évidemment, c'est beaucoup mieux s'il y a des gens, mais c'est plus mon problème à moi en termes de risque. Et c'est plutôt l'espace mental que ça dégage pour justement avoir plus de temps de cerveau pour faire d'autres choses et être moins stressé, quoi.
Et je pense que c'est vraiment une question de comment on est bâti soi-même et qu'est-ce qu'on aime, où on aime avoir de la pression, où on aime avoir des ambitions, ou tu vois, c'est voilà, et après, il y a des choses que moi, en indépendant, pour le moment, je ne sais pas encore faire. Donc, peut-être qu'un jour, je demanderai de l'aide à une production pour m'aider. Pour le moment, franchement, si je peux continuer comme ça un peu, je me sens bien là où je suis. Et puis, tu vois, booker des dates en appelant des comédiens à droite à gauche, comme on a fait
maintenant
là.
Maintenant, c'est les copains, quoi. Donc,
exactement.
C'est cool.
Et ce que je disais, on dirait que c'est une sorte de petite équipe, mais internationale. Mm-hmm. Tu vois, je peux demander à des gens en Suisse, est-ce que vous pourriez pas m'aider, trouver des dates. Même, on m'a proposé il y a pas longtemps d'aller en Espagne, tu vois. C'est sympa, tu vois. Mmh. Ça va pas être une grosse économie, mais en tout cas, ça va être un plaisir de se dire, écoute, tu peux le faire pour travailler, quoi.
Mmh. Et du coup, si tu ne joues pas énormément ton spectacle quand il est terminé, c'est quoi pour toi la fin en soi du spectacle? Est-ce que c'est trouver la blague la plus parfaite possible qu'elle puisse être? Est-ce que c'est juste savoir qu'à la fin, t'as un spectacle qui tient la route dont t'es fier? Est-ce que, enfin, tu vois, vu qu'en général, le plaisir des gens, c'est de faire rire les gens et de faire ça plusieurs fois.
Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que j'ai pas la blague parfaite. Moi, j'ai jamais eu ça. Jamais eu, tu sais, une forme de blague où je me dis, cette blague-là, elle est terminée. Mmh. Parce que j'ai toujours improvisé sur des blagues et j'ai toujours, et ça a été un défaut à un moment, rajouter des trucs. Bah ouais. Quoi? Franchement, j'allais trop loin. Je rajoutais des trucs, après je rajoutais encore des délires, après je rajoutais un perso dans le délire. C'était vraiment, au bout d'un moment, je me disais, quand t'aimes pas la forme d'absurde que je fais, tu me détestes. Tu me regardes en disant, la putain de ta grand-mère, elle s'arrête quand ta blague, en fait. Tu vois? paix à mamie. Mamie, paix à ton âme, c'est pas toi. C'est une expression. En gros, moi, je dirais que c'est la captation, parce que si j'aime la captation et que je me sens bien, je vais essayer de faire un format où je me dis le spectacle il tient debout parce qu'il aborde plein de petits thèmes, plein de couleurs en quelque sorte d'émotions. C'est pour ça qu'hier je te demandais quand t'as vu le set, très gentiment un peu regardé ce que j'ai fait. Je t'ai dit ça va, c'est pas glauque, et tu m'as dit non ça va, c'est pas glauque, tu vois. Mais en gros, moi, ça, c'est ça qui m'inquiète. Là où est mon inquiétude, c'est l'émotion et l'atmosphère dont va se dégager le matériel que j'ai. Il va dégager quel type de vibes, quoi. À la fin, tu sors comment, quoi? Tu vois? Et si tu sors et t'es dégoûté, bah ouais, là, j'ai envie de retravailler le truc. Tu sais, tu dis, ouais, j'ai bien rigolé, mais par contre, j'ai vraiment envie de mourir. Je vais retravailler le truc. Alors que si tu dis, ouais, ça m'a désespéré, mais c'était positif en même temps, ça me fait kiffer. Tu vois, là, c'est un peu l'idée que j'aimerais pour le spectacle. C'est un spectacle un peu désespéré, parce que tout le monde l'est, mais en même temps cool dans l'idée de se dire, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave en vrai. Ouais. Je sais pas si c'est un sens que je dis.
Si, totalement. Le truc de, ok, il y a la guerre. Moi, si je dois aller à la guerre, je pourrais être très bon pour insulter les gens de manière cocasse.
Ouais.
Ça, c'est typiquement pour moi, ça représente un peu tout ton set, côté. Il y a des trucs horribles, voici des farces absurdes sur un truc autour de ce truc horrible.
C'est ça. Et tu vois, par exemple, ces deux blagues-là, elles n'étaient pas liées avant. Et j'ai pu le lier grâce à l'ambition d'essayer de créer une heure. Mais avant, elles n'étaient pas liées. Avant, j'avais juste un set sur la guerre, des blagues sur la guerre, parce que quand il y a eu la guerre, tout le monde a été traumatisé, choqué. On a vu des images, on a eu peur, on était... Donc moi, quand j'ai peur ou que je suis pas bien, je fais des blagues en fait. Et donc hop, je fais un petit truc sur les blagues. Le truc sur les insultes, c'est un vieux morceau que j'avais de 2 minutes de blague où je traite quelqu'un, où je dis je suis dans les chats, t'as toutes vos mères, tout ça. Et ce bout-là, je l'avais enlevé parce que les gens aimaient pas m'entendre dire des grossièretés. Et maintenant, ça va mieux. Maintenant, j'assume plus, en fait, qu'ils aiment pas. Moi, je trouve que cette blague, elle me fait rire. Donc
quoi, t'as trop un truc de trop gentil, et donc quand tu dis des insultes.
Je te jure, vraiment. C'est presque un handicap. C'est pour ça que je dis dans le spectacle, c'est bon, je suis pas sympa. Okay. Genre, c'est presque un handicap. C'est-à-dire que les gens, ils aiment pas quand je dise des gros mots. Je sais pas, ça marche pas avec ma tête. Je sais pas, mais on m'a fait des retours, c'est pas moi. C'est les gens qui viennent. Moi, j'ai toujours dit des gros mots, même dans ma famille, enfin. Partout, j'ai dit des gros mots tout le temps, moi. Et des grossièretés, des choses comme tout le monde, quoi. Je sais pas, tu sais, il y a des trucs qui marchent pas avec ton... comment on appelle ça? Ton emploi. T'sais, c'est comme au théâtre, tu vois. Je trouve que les gens, ils ont des emplois. Moi, tu me mets dans un film pour que je fasse un mec très costaud, genre qui casse la gueule à tout le monde. bon, va falloir quand même que j'apprenne des chorés bien précises. Tu pourrais, ça, je vais pas être crédible, tu vas pas être vraisemblable. Et apparemment, c'est pas vraisemblable que je dise des tas de gros mots. J'en sais rien. Ils aiment pas ça, les gens.
Ouais, mais tes insultes, elles sont quand même toujours tellement bizarres que ça va, je trouve.
Voilà. Mais oui. Donc, voilà. Donc, du coup. Du coup, je garde les insultes bizarres, tu vois.
Moi, si je t'entends dire connasse,
ouais.
Je trouve ça bizarre.
Ouais.
Si je t'entends dire je suis dans les chattes à toutes vos mères,
ouais, ça va.
Ben, je me dis ça, c'est mon Yacine. Ça, je savais que j'allais le trouver là.
Non, mais tu vois, et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que en essayant d'écrire le spectacle, moi, ça m'a plu de dire, ok, y a ce truc où j'insulte quelqu'un ou des gens. À la base, cette blague, elle était avec des super-héros. Je disais, ouais, j'aime pas les super-héros. En fait, je trouve qu'ils exploitent mal leur pouvoir. Par exemple, Batman, moi, si j'étais aussi fort que lui, je kifferais insulter les méchants avant de me battre avec eux, tu vois. Parce que ça ferait un moment jouissif de « tu te défoules ». Eh ben, je l'ai changé et je l'ai collé avec le truc de la guerre, avec moi dans un scaphandre, genre par balle. Et ça me fait taper des barres, parce que vu que je sais pas me battre, mais j'ai juste une qualité. Et ça sous-entend l'idée que notre peuple en France... Même s'il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'affronter, c'est en tant que peuple qu'on devrait affronter un ennemi extérieur. Et pas seulement l'armée, genre Dieu merci les gros bras, heureusement qu'il y a des gens qui savent tirer, tu vois. Je trouve que c'est trop valoriser la violence. Et je pense qu'il faut aussi essayer de valoriser la culture. Mais ouais, mais les insultes, pour moi, j'essaie de dire que c'est une culture que j'ai appris en Seine-Saint-Denis. Et c'est une culture qui existe et qu'on n'aurait pas sans le foisonnement intellectuel des jeunes de Seine-Saint-Denis. Ils sont ultra chauds en insultes. C'est pas partout en France où il y a des bêtes d'insultes. Après, il y a peut-être des bêtes d'insultes dans le Vercors, tu vois, de vieux fermiers. J'ai hâte de les entendre, mais je ne les connais pas. Et je suis passionné par cette sous-culture-là.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un bonus à la fin de 2022 où c'est juste un concours d'insultes entre plusieurs personnes, s'il te plaît? Avec les scaphandres.
Ah ouais, on va le faire, c'est d'accord. je vais faire passer un micro en disant « Donnez-moi vos meilleures insultes et tout. » Y avait une insulte québécoise que j'adorais, c'est « M'a t'arraché la tête et te chier dans le corps. » Je vais t'arracher la tête et te chier dans le corps. Ou « Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou, selon, tu vois. » Je trouve que cette insulte est incroyable.
C'est à la fois très violent, à la fois gratuit. Et à la fois pas très propre.
Et surtout, ça doit demander un transit contrôlable extrêmement... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour chier dans quelqu'un, faut avoir envie d'y être. C'est toute une infrastructure pour moi. Où tu mets le corps, comment tu fais pour que...
Oui,
tu vois,
puis c'est petit, hein, larynx et tout, tu vois.
Ouais. Donc, pour ça que cette insulte, il y a énormément de questions. Avec cette insulte. Et donc, t'es obligé de faire bugger la personne, quoi.
Ouais.
Ça bug. L'autre, pardon, mais... T'auras plein de problèmes, déjà. T'auras un problème de fluide de ouf si tu m'arraches la tête. Il y aura du sang partout, mec.
Ouais.
Il y aura vraiment du sang partout.
Un petit geyser, mais un peu comme les toilettes de je sais pas où, là. Où
la toilette japonaise.
Qui te nettoie directement, là. T'es nettoyé par le sang et c'est...
Voilà.
T'as peur toujours quand tu testes des choses en fait ça doit être, je pense que ça doit être affreux de quand tu fais du stand-up depuis plus de 10 ans de tester parce que les gens ils disent oh il fait ça depuis longtemps, si c'est nul c'est vraiment que sa vie est nulle à chier.
Ouais. Ouais, j'ai toujours peur de tester, moi j'ai toujours peur de tester et j'ai toujours peur de refaire des bouts qui sont neufs que j'ai pas bien rodés. J'ai toujours peur, mais en même temps, si tu le... En fait, effectivement, parce que tu peux avoir tout ce que tu veux comme répute, lui, il est rigolo, lui, il est pas rigolo, machin, j'essaye de pas trop penser à ça, mais si tu testes pas, tu construis pas ça, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que c'est une peur nécessaire, quoi, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que c'est paniquant, c'est surtout que c'est inconscient, donc une fois que, même si raisonnablement, tu te dis, ouais, c'est bon, ça sert à rien d'avoir peur, parce que, voilà... j'ai quand même peur d'être jugé, de m'exposer. Ultra peur, ouais, c'est ça, ça change pas. Après, t'arrives de plus en plus à mieux gérer cette peur. Mais la peur, elle s'en va pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que tu vis des sensations, quoi. Sinon, il n'y a pas de satisfaction. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de satisfaction, quoi. Si c'est genre, au bout de 2 ans de stand-up, tout ce que tu dis, c'est marrant. C'est un cauchemar, je pense. Ça s'appelle l'enfer. T'arrives sur scène, tu dis bonsoir. Mais et l'autre jour, j'étais dans un canapé.
Mais je pense que c'est le cas de pas mal d'humoristes connus.
Sérieux?
Bah, j'ai l'impression qu'il y en a, les gens sont plus contents juste de les voir que d'entendre leurs blagues, en fait.
Ah ouais?
Bah, j'ai l'impression que quand tu des grosses stars...
Moi, je suis pas sûr d'être dans le même ressenti par rapport à ça, parce que je pense que même quand t'es vachement connu, t'as un temps de grâce, tu sais, de quelques minutes, genre 5 minutes, mais après, si t'es pas marrant, bon... Tu peux, c'est pour ça qu'il y a eu des humoristes connus qui ont fait des passages et des spectacles même qui se sont pas, qui se sont pas, comment dirais-je, super super bien passés quoi. Que c'était pas des spectacles qui cartonnent. Il y a des humoristes connus qui marchent pas des fois. Sinon tout le monde marcherait tout le temps, tous les connus marcheraient tout le temps.
Mais j'ai l'impression que les connus, une fois qu'ils sont connus, juste ils continuent à être connus.
Bah moi je pense qu'il faut qu'ils soient rigolos. En plus, moi j'ai déjà vu des gens vraiment connus. Je parle de la génération d'avant, hein. Je parle pas de même ma génération à moi, hein. Je parle des grosses restas des années 90. J'ai déjà vu des gens connus ne pas marcher. Et je trouve que c'est tout à fait normal et c'est ok. Voilà, je pense que c'est important. Par contre, je trouve que c'est à nous d'éduquer le public. Éduquer, c'est un grand mot, mais disons de faire passer le mot au public que le spectacle vivant, c'est beau aussi parce que tu peux assister à des bides. Que l'exigence que les gens ont d'avoir obligatoirement des rires et de passer une excellente soirée n'a aucun sens si eux ne font pas un effort aussi pour participer à la soirée. Parce qu'ils sont vraiment part de la soirée. Ils sont un gros morceau. Si t'as un public sympa, tu vois, première fois, les soirées première fois que je fais, souvent ça se passe trop trop bien. Même des fois, bon, on n'a pas des passages incroyables en vrai. Hein. Des fois, même les comiques, ils disent « Bon, mon passage, il n'était pas dingo-dingo. » Mais les gens, ils sont contents parce qu'il y a une atmosphère et ils sont d'accord pour être moteurs. Et dans les pays anglo-saxons, le public, il sait beaucoup, beaucoup ça. Il sait que s'il n'est pas moteur, ça ne marche pas. En tout cas, au début, quoi. Alors, donc, je trouve qu'avoir une grosse exigence et se dire « Bon, lui, c'est une rosta, j'espère qu'il va me faire rire. » Ben, c'est comme faire l'amour et dire ben la personne est jolie, j'espère que elle va me faire kiffer quoi. Ben non, faut participer, faut être dans l'histoire. C'est 50-50. Donc on peut pas juste attendre de la personne, faut être un peu bienveillant, un peu petite ambiance, tu sens que je sais pas, vous allez bien ? Oui, tu vois. Pas à faire j'attends de savoir si tu es rigolo, je vais te dire si je vais bien plus tard, c'est pas tes affaires si je vais bien. Enfin, faut y mettre une petite part de soi quoi. C'est mon opinion.
Et j'ai maté il y a quelques jours le documentaire de Seinfeld
Comédienne. Ouais. Trop bien.
Bah oui et non.
Ah pourquoi ?
Bah j'ai assez bien aimé la partie avec Seinfeld.
Ah bah oui.
Mais Orny Adams, j'avais envie de le jeter par une fenêtre et d'y mettre feu. Parce que donc c'est un comédien qu'on voit en parallèle à Seinfeld et qui, j'ai pas encore fini le documentaire, mais là où j'en suis, il perce jamais vraiment parce qu'il passe son temps à se branler sur ce qu'il a fait avant, sur les articles qu'il a eus, sur les critiques, machin, et il est insupportable en fait. Et je pense qu'il cristallise vraiment tout ce que je déteste et tout ce que j'essaye de pas devenir. Mais c'est très dur en vrai de pas passer son temps à se branler sur ce qui a bien marché avant.
Ouais. Oui. Enfin, moi en fait, et c'est pas de... C'est pas de la modestie, je te jure, mais j'ai un problème déjà d'avoir confiance en moi déjà de base. Donc là, je commence seulement à dire non, mais mon spectacle il est bien, cette blague elle est bien. C'est pour ça que je me suis permis de dire 2021, je trouve que c'est cool, tu vois. Mais avant, j'arrivais absolument pas.
Ah ouais.
Non, zéro.
Mais c'est fou parce que t'es quand même le mec qui doit vendre ton spectacle.
Oui, mais j'arrivais pas à kiffer en disant j'aime mes blagues. J'ai jamais dit des trucs que j'aimais pas, tu vois. J'ai jamais vendu un truc que j'aimais pas, mais j'arrivais pas à me la raconter sur tel ou tel fait que j'avais fait. Et c'est avec le temps que j'ai appris, voilà. C'est avec le temps. Voilà, c'est vraiment pas de la fausse modestie, je te jure. Mais c'est juste pour dire que c'est aussi un chemin, ça prend du temps. Et je pense que Orny Adams, au-delà de son arrogance, je pense c'était une des personnes qui était le plus triste au fond de lui. Il était tout douteux. Tu sentais bien qu'il allait pas bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui allait pas bien.
Oui, mais c'est la cristallisation de toutes les insécurités du monde, ce mec.
Exactement. Tu vois. Alors que Seinfeld, lui, il est totalement détendu par rapport à lui-même. Mmh. Il est bien, il est sûr de lui. Tu vois, en fait, moi, je disais que ce documentaire, il est génial. Moi, je le recommande à tout le monde, ceux qui veulent connaître le stand-up, pour la partie, justement, avec Seinfeld. Effectivement, c'est vrai que t'as bien fait de repréciser ça. Parce que tu vois Seinfeld qui recommence à écrire en partant de zéro et tout. Tu vois ses doutes, etc. C'est super beau. Après, Orny Adam, je trouve qu'ils ont pas été très honnêtes avec lui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de montage qui a été fait en sa défaveur.
J'espère.
Moi, je pense sincèrement, j'ai pas la preuve de ça, mais je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en sa défaveur, que le gars certainement est un peu relou, mais c'est impossible d'être insupportable à ce point-là et de traîner avec Georges Shapiro ou des gens connus comme ça, d'avoir autant de stage time, autant de place. Je pense pas, en tout cas, tu vois. Et je crois que ça a complètement niqué sa carrière pour de vrai. Maintenant, il écrit apparemment pour des séries, etc., à Los Angeles. Mais en tant que stand-up, il semblerait qu'il revienne un tout petit peu en ce moment. Mais malheureusement, la sortie de ce documentaire lui a fait énormément de mal. Et je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Je pense qu'au niveau du montage, à regarder, c'est ultra divertissant. Parce qu'il y a beaucoup de réactions, tu vois. Ça te fait réagir, t'as la rage contre lui. Tu dis, quel connard! Mais il est insupportable, tu vois. Mais je sais pas. Je pense qu'au montage, ils ont salé l'histoire, quoi.
Ok.
Je pense.
Ok. Pourquoi tu as du mal à avoir confiance en toi?
Oh ben j'en sais rien du tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais je préfère ça à la limite, parce que j'essaye d'avancer le plus simplement possible. Je me mets pas trop de pression. Je me dis pas, comme je suis génial, faut que je fasse ça. J'ai pas trop la rage, tu vois. J'ai pas trop de seum, du coup, en me disant, pourquoi j'ai pas ça, moi, étant donné que je suis incroyable. J'ai eu des moments, tu vois, dans ma carrière où je pense que j'ai été plus semard que d'autres moments. Mais je sais pas d'où vient ce manque de confiance, mais c'est un truc qui a toujours été là. En fait, je dirais pas que c'est un manque de confiance. Enfin, j'arrive à jouer quand même, tu vois. J'ai pas peur d'aller jouer. Je manque pas de courage, mais j'ai pas beaucoup de confiance.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Parce que j'y vais
quand même, tu vois. Je le fais quand même, le truc.
Genre, tu passes au-dessus, mais c'est un combat, quoi.
Bah ouais, c'est flippant. C'est flippant, mais c'est kiffant. Je fais pas de trucs qui me font peur et qui me font pas kiffer. Là, j'ai décidé de maintenant, quand je prends des décisions, faut que ça me fasse kiffer.
Il y a toujours un win dans le truc, quoi.
Okay. Faut qu'il y ait du plaisir et du sens.
Pourquoi t'as accepté, du coup, avant
je savais pas. Je me consultais moins, en fait, et je pensais qu'il y avait des chemins à faire. Tu sais, on vit dans un truc où tout le monde pense qu'il y a, comment dirais-je, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je dirais que les comiques, on leur dit voilà, pour que ton spectacle et pour que tout le monde veut jouer. Donc moi, je voulais jouer beaucoup. Pour que tu joues, faut que tu sois un peu connu. Pour que les gens viennent. Sinon, on dirait, je vais voir quelqu'un que je ne connais absolument pas, même moi, j'y vais pas. Donc, pour être un peu connu, il faut que tu aies un peu de notoriété. Pour avoir un peu de notoriété, il faut que tu passes par des canaux. Alors maintenant, ça va être Instagram. Maintenant, c'est la course aux impros. Non, c'est festival d'improvisation. Tout le monde fait des improvisations, filme les improvisations. Parce que pour quelques comédiens, ça a vraiment très, très bien marché. Tant mieux pour eux. Et maintenant, tout le monde essaye de reproduire ce schéma. Ben moi, je n'ai aucune idée de comment augmenter ma notoriété. C'est pas un skill que j'ai. Je sais pas le faire. Mais si j'avais été en prod et qu'on m'assène plusieurs fois par semaine, gars, faut faire des improvisations. Il y a que comme ça qu'on peut y arriver. En ce moment, c'est comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, peut-être que j'aurais cru cette personne en disant, vas-y, je sais pas comment on fait. Je vais essayer d'aller dans ce sens-là. C'est pas un truc qui me passionne, mais je sais le faire. Donc, allons-y, let's go. Tu vois, faisons ça. Donc, tu vois, c'est dans ce chemin-là que je peux aller me perdre dans un endroit où je suis pas contre. Je trouve aussi que dans l'autre sens, n'écouter que soi et faire exactement que ce qu'on veut quand on veut, c'est débile aussi. Faut trouver un entre-deux entre le monde extérieur et tes envies. Mais voilà, c'est compliqué de se positionner bien là-dedans.
Ok. Pourquoi on fait du stand-up, tu penses, en général? Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a un truc très égoïste de « j'ai des insécurités, j'ai besoin de me sentir aimé ».
Ouais.
Je vous fais rire. Et il y a un truc que j'ai beaucoup senti dans le documentaire que t'as fait. C'était sur rassembler les gens, trouver un truc commun, un truc qui nous rassemble et tout ça. Et donc...
Ben, franchement, je sais pas trop en vrai pourquoi on fait du stand-up, mais je pense que oui, ça répond en partie, le fait de vouloir ressentir une approbation, une validation, le fait d'être, de se sentir accepté. Alors, aimer, c'est un mot où tu peux mettre énormément de définitions, c'est très compliqué, mais ouais, effectivement, les deux choses que tu as dit, elles peuvent marcher ensemble, hein. Rassembler les gens et se sentir apprécié ou validé, ou juste avoir le plaisir d'être sur la même longueur d'onde que des gens. Moi, je sais que ça, ce qui me plaît, c'est de me sentir compris. Parce qu'il y a beaucoup de moments où dans la vie, j'ai pas réussi à exprimer les choses, ou j'avais pas cette sensation de me faire comprendre simplement. Et plus j'ai des idées cheloues, bizarres, absurdes, et plus les gens rient, plus je me sens compris et ça me rassure vachement. Et puis, ça me plaît aussi de pouvoir d'avoir un métier qui est à côté des autres métiers. C'est un métier qui est assez étrange et qui est assez en marge, si tu veux. Quand tu vends du fréon, par exemple, t'es dans l'industrie du fréon, mon pote. T'es dans le fréon game. Ça veut dire que tu connais le gaz, t'es dans un système. Tu vois l'impact que tu peux avoir. Nous, dans le côté artistique et le fait de pouvoir s'exprimer et de donner des émotions aux gens, on n'a pas autant de catégorisation que ça. Si tu veux, on ne nous dit pas, voilà, vous êtes telle industrie. Alors que finalement, on est une grosse industrie qui rapporte beaucoup d'argent, qui a son poids dans le PIB, tu vois. Mais il y a le plaisir d'avoir un métier qui est à côté un peu de la société. Parce que c'est de l'artisanat. Et t'es pas dans une industrie énorme comme la grande distribution. Ça, pour moi aussi, ça a un impact. Avant, je calculais pas ça. Maintenant, j'aime bien voir ma petite place à moi dans la société.
Ok. C'est vrai qu'on fait des trucs avec zéro matière première.
Bah ouais.
J'avais jamais pensé à ça.
Après, on utilise de l'électricité beaucoup. À mon avis, on a un bilan carbone un peu nul, tu vois.
Oh, sûrement.
Mais ce que je veux dire, c'est que on est un peu sur le côté. Et s'il y a bien des gens qui ont une position un peu hybride, un peu bâtarde, c'est nous, quoi. Plus que les musiciens, même. Parce que nous, on est vraiment, je pense, en termes de spectacle vivant, un des trucs les plus... qui a le plus de vitalité en ce moment. Le stand-up a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de lui qui nourrissent, qui organisent des soirées.
Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'être dans le stand-up que d'être dans la musique, quoi.
Absolument. Avant, je me disais que, tu sais, il y avait tous ces bars, il paraît, dans les années, 60, 70, c'était cool, les cabarets, tu vois. On entendait les histoires. Ouais, il y a lui qui a commencé à la guitare, tu vois, des trucs un peu cool, un peu indé. Après, les groupes de rock, tu vois, dans les garages et tout. Bah, stand-up, je trouve, c'est devenu le nouveau truc un peu indépendant. T'as besoin de pas grand-chose. Il y a plein de bars où il y a un petit coin scène qui était certainement avant, dans les années 60, pour la musique. Et ben maintenant, c'est pour des gens avec des micros, quoi. Mmh. Et puis une grosse enceinte, un micro, ça y est, c'est réglé.
Ouais. Comment on écrit... comment tu fais pour écrire de l'absurde? Est-ce que...
J'ai pas de méthode. Je pense que c'est chacun ses inspirations. Et je pense que moi, c'est un humour qui m'a fait rire. En plus, je sais même pas définir très bien absurde. À un moment, je disais, je fais du surréalisme et tout. Maintenant, je dis plus rien. Je dis, c'est bon. Je sais pas, parce que je sais pas très bien le définir. Genre, si je savais, je serais trop content. Mais comment on pourrait définir l'absurde?
Je sais pas, mais moi, la question derrière, c'était comment tu fais pour n'avoir aucune limite mentale dans ce que tu imagines quand tu écris une histoire, tu vois?
Moi, j'ai l'impression d'avoir des limites mentales. Hein. En fait, moi, je me dis, tiens, cette situation-là me fait rire. Cool. J'aime bien quand il y a des personnages. J'aime bien quand il y a des dialogues. Donc, j'essaye de mettre...
Et des nazis.
Et quoi? Et des nazis. Les nazis, c'est les meilleurs méchants. Ouais, alors là, moi, j'ai dit oui. Indiana Jones et l'Arche perdue. Magnifique méchant. Les meilleurs méchants, c'est les nazis. Hellboy, magnifique nazi à l'intérieur. Franchement, c'est des meilleurs méchants. Donc ouais, moi, j'ai grandi avec ça dans les années 90, c'est aussi pour ça. Donc ces références-là, elles ont un impact émotionnel pour moi. C'est vraiment beaucoup lié à l'affect, en fait, que j'ai pour ça. Et donc, si tu veux, moi, c'est pas tellement absurde dans ma tête. Je me dis, c'est rigolo de faire parler les objets, les bidules, les animaux et tout. Donc, je tente de raconter quelque chose qui pourrait être fait en dialogue, mais tout seul, avec des personnages. Quand j'ai vu Eddie Izzard faire ça, ça a été quelque chose, je me suis dit, waouh, cette personne arrive à créer tout cet univers-là. Donc, c'est un chemin où je peux continuer à aller, je ne me trompe pas. Et donc, c'est devenu ma référence principale. Parce que avant, c'était compliqué de le voir en stand-up, ce genre de d'humour-là. En France, en tout cas. Et puis les choses qui m'amusent réellement, c'est les Monty Python, c'est les nuls qui faisaient des blagues complètement débiles. Mais j'adore les blagues pas absurdes aussi, tu vois. Mais voilà, j'essaye de pas me limiter quand j'ai une idée. Et les idées, elles pop vraiment sans, j'ai pas de méthode de création d'idées, quoi. C'est vraiment, j'essaye d'écrire et l'inspiration, ben, ça vient des fois ça vient pas. Par contre, j'essaie de mettre une discipline dans l'écriture, au moins une fois par mois, d'écrire un certain nombre de blagues, etc.
Ah ouais? T'as des,
première fois.
Ouais.
Donc,
ah ouais.
En fait, je me suis, première fois, elle a été vraiment créée pour que je me sorte les doigts du cul, quoi. Parce que sinon, j'étais complètement irresponsable en termes de création. Et c'est un peu, encore une fois, ça revient à l'artisanat, c'est de se dire, bon gars, t'es une petite usine à blagues, faut que tu produises. T'es pas affilié à une grosse industrie, t'es pas coté en bourse comme certains gros comiques énormes qui rapportent des centaines de milliers ou des millions d'euros. Mais par contre, t'as ta petite usine à toi, t'as ton petit truc, c'est un atelier. Donc les matières premières, c'est les idées qui t'amusent, que les gens vont pas rigoler. Tu les apportes, les gens, des fois tu dis des blagues et ils disent dégage de là avec ton histoire, on s'en fout. Ok, ça vous fait pas rire. Moi je pense que c'est marrant, je vais retourner travailler. Tu recraftes le truc, tu travailles dessus, tu changes des mots, tu rajoutes caca prout, tu reviens avec des mots rigolos. Ah, ok, c'est bon, ça passe mieux. Tu vois, ça c'est possible parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Là où j'ai pas confiance en moi, j'ai hyper confiance seulement parce que je regarde le fait que je l'ai fait dans le passé. C'est pas parce que je me dis, ouais, je suis marrant. Je me dis pas ça. Franchement, quelqu'un vient me voir et me dit, mec, tu pues la merde, t'es pas marrant. Je dirais, t'as totalement raison. Parce que pour toi, je suis pas marrant. C'est totalement le cas. C'est réel, quoi. Pour le gars, je suis pas marrant. Donc, je peux pas me dire, je suis marrant. Je suis marrant pour les gens qui me trouvent marrant. Mais moi, tout seul, dans mon petit univers où je me dis, ce soir, je prends un micro, je suis obligé de regarder le passé pour me dire, pas je kiffe, mais je l'ai fait déjà. Je l'ai fait quelquefois, je peux le refaire. Il n'y a pas de raison, tu vois. Quand je fais une omelette, je ne me dis pas, putain, comment je vais faire? Je dis, gars, j'ai déjà fait une omelette. On va refaire les mêmes moves, on va voir, tu vois.
Ok.
C'est un peu comme ça que je me rassure.
D'accord.
Si tu veux ma technique de rassurage.
Ok, mais donc, tu arrives à te poser vraiment devant une feuille et te dire, ok, maintenant, j'écris en 10 minutes.
Ouais, mais j'ai énormément de mal. Mais pas vraiment comme ça. En fait, je me dis, il faut que je pense à mon 10 minutes, il faut que je réfléchisse comment, mots-clés. Des fois, je rajoute quelques blagues en plus, une fois que c'est fait, vraiment écrite. Mais je peux pas me dire, je me mets devant une feuille, j'écris tout de A à Z, chaque blague. Je ne peux pas. Je sais que je trouve des choses drôles, ça m'amuse, et bien souvent... sur scène, il y a une part d'inconscient, hein, y a une part mystique. Hein, je sais pas si t'es d'accord, mais
tu vois, il y a un truc. Je sais pas d'où ça vient, mais.
Ah ben voilà. Et ça, je pense que c'est dû à la peur.
Ouais.
Tu vois? Bah voilà, super.
Parce que tu réalises à quel point tu vas être une merde si personne rigole, donc t'es obligé de trouver.
Exactement. Moi, bien souvent, ma première blague que j'ai écrite, elle est absolument nulle à chier. Je dis ma première blague, alors que je crois qu'elle est drôle, hein, évidemment. Je dis, vraiment, j'insiste, je pense que c'est drôle. J'arrive, je suis sûr que c'est drôle. Bonjour, ta-ta-ta-ta, blague que je crois qu'est marrante. Les gens, zéro, rien, aucune réaction. Et là, mon cerveau, en PLS, panique totale, me dit, essaye ça. Et je réessaye un truc, en fonction de la vibe que j'ai reçue, et ça fait plus rire derrière, parce que mon cerveau m'a envoyé un truc de panique.
Je pense
que,
quoi, ouais.
Voilà, je pense que mon talent, c'est d'avoir une très faible capacité à supporter la tension, tu vois, ou les gens drôles, ils aiment pas quand les gens se disputent, par exemple, et ça s'embrouille et tout. Ah, oh, moi je vais faire une blague pour détendre l'atmosphère. Moi je suis très bon là-dedans, c'est ça mon talent, plus que d'être marrant. C'est la tension, c'est casseur de tension, quoi. Il y a une tension. Ah merde, ils se regardent en disant, mais c'est de la merde ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, OK, c'est bon, ça va. On a reconfiance maintenant, ça y est, on a reconfiance. Okay. Toi t'écris devant une page blanche?
Ouais, j'ai pas le choix pour les chroniques inter. Ah ouais. Je suis obligée de...
Comment j'admire les gens qui font des chroniques. Je trouve ça incroyable.
C'est horrible, en fait. Quand tu penses à juste l'idée de devoir présenter chaque semaine 3-4 minutes de trucs que t'as jamais testé de ta vie, c'est horrible.
Exact.
Mais en fait, c'est un peu comme toi. C'est genre, ok, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'était bien. Et j'étais vraiment contente du résultat pour quelques chroniques. Bah, peut-être ça va faire la même chose, quoi.
Est-ce que généralement, t'es contente avant de dire la chronique? T'arrives à être contente avant? Ou c'est une fois que t'as fini la chronique et que t'as un retour sur ta chronique que t'arrives à être contente parce que finalement, l'impact que t'as eu était positif?
Ça dépend, parce que des fois, je suis contente de chronique et elle marche pas du tout.
Ouais.
Et des fois, je trouve que c'est pas ouf. Et en fait, je les vends assez bien dans le delivery pour que ça passe. Et donc, c'est...
D'accord.
J'arrive à être contente, mais des fois, c'est pas bien
ouais, je
quand
comprends.
Même. Donc, ouais, c'est assez... ça dépend très fort. C'est pas genre... Enfin, moi, ça me fait hyper peur de... Les courants d'humour un peu alternatifs, dans le sens où si ça marche pas, tu le sens mille fois plus fort. Genre, si tu pars dans un truc un peu absurde ou un peu glauque, assumé ou n'importe quel. Si les gens, ils accrochent pas... Tu dois te sentir encore plus seul.
Ouais, bah oui.
De ouf, parce ouais. que t'as osé faire un truc différent et personne te suit là-dedans.
Ouais.
Est-ce que du coup, t'as déjà eu des hésitations à aller au fond, au bout de ton sketch parce
bah
que.
Oui. Bah oui, mais après, c'est à toi de choisir, quoi. En fait, en gros, soit tu restes avec la blague que tu connais et tu restes avec cette blague et voilà. En fait, ça dépend pourquoi tu fais les blagues, quoi. Moi, je dis, si t'aimes bien ton idée, à un moment donné, faut essayer, en tout cas, de la défendre, quoi. Voilà. C'est un peu ce que j'essaye de faire là. Bien sûr, il y a des fois où je me dis, oh, c'est relou de faire des bides, hein. C'est relou de, les gens rigolent pas. Voilà. On est... Mais, en même temps, refaire le même set marrant tout le temps, pendant des, c'est aussi très relou, tu vois. Donc, il faut tenter. Alors, des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Des fois, j'ai pas assez de courage. Et je reste sur, ma petite piste verte, je fais mes petits mouvements de ski tranquille, voilà. Puis des fois, je dis, ah, vas-y, c'est bon, hors piste, quoi, on y va, on tente le truc. Tu vois, par exemple, hier, dans le deuxième show, la fin, que j'ai pas envie de raconter pour pas spoiler le truc, mais la fin, les gens, ils m'ont pas suivi. Sauf que moi, ben, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à la dire, mais par défi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais pas là pour savoir si c'était marrant. J'étais là pour savoir si j'allais la tenir. Si j'allais bégayer, si j'allais baisser les yeux, si j'allais dire ok vous avez raison, si j'allais faire une remarque de tu sais sur moi-même en disant c'est pas marrant. C'est non les gars, je pense sincèrement que ça a de la valeur. Je vais vous le proposer. C'est une proposition artistique, ok, on fait ce qu'on peut. Je suis désolé, tu vois. Si ça vous fait pas rire maintenant, je vais pas réinventer un truc pour que je sais pas, je vais pas sortir de. Je vous donne 3 euros chacun si vous voulez. Par rapport, non mais sérieux. Je vous rends 3 euros de la somme que vous avez pas gaulerie, les amis. Par contre, je vais vous le dire en ayant la foi à fond et j'y crois et je savais bien qu'ils me suivaient pas. Et à la fin, ils ont applaudi parce qu'ils ont compris mécaniquement qu'il y avait une fin mécanique, mais ils ont pas du tout kiffé ce passage. Et ben, moi, ça a été le highlight de mon moment parce que je me suis dit, je peux défendre ce bout-là. Je peux le défendre. J'ai suffisamment la foi dans ce morceau pour le défendre. Parce que quand tu pars en hors-piste et que les gens ne te suivent pas, comme tu le disais, t'es seul, c'est le désert. Ça ressemble à dans... Pourquoi je fais que des analogies de manga? Dans Dragon Ball Z, à un moment, il y a la salle du temps. As-tu entendu parler de ce manga? C'est un endroit où, en fait, ils vont s'entraîner. Ils ont un ennemi très dangereux à affronter.
Un
c'est
nazi.
En Goku, tu sais, c'est des combats, tu vois. Dragon Ball, c'est des trucs de guerriers, ils
dans
se battent.
Dans les airs.
Voilà, ouais, tu vois. Et puis...
Et ça dure 3 épisodes pour un combat.
Des fois même, voilà, bien plus. Et là, il y a un ennemi, il est hyper dur à battre et tout. Ils savent qu'il est hyper dur à battre et qu'ils n'ont pas le niveau à ce moment-là. C'est la catastrophe. Parce que s'ils vont se battre contre cet ennemi-là, malheureusement, ils meurent. Et si eux, ils meurent, bah, tout le monde est foutu, quoi. Parce que la planète Terre, contre cet ennemi dangereux, c'est terminé. Donc, ils décident d'aller dans un endroit qui s'appelle la salle du temps pour s'entraîner et pour glow-up, pour updater leur force.
Et donc, pendant qu'ils s'entraînent, le temps s'arrête ?
Pendant qu'ils s'entraînent, en fait, une seule journée passée dans la salle du temps pour nous, et ben dans cette salle, c'est une année.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'ils vont faire 1 an d'entraînement de bâtard en une seule journée. Du coup, l'ennemi est en train de foutre la merde partout, il tabasse tout le monde, il détruit tout, personne l'arrête pendant 24 heures encore. Et eux, pendant 24 heures, mais cette salle, il n'y a rien. Tu rentres dedans, c'est tout blanc et le temps passe lentement. et c'est relou et c'est épuisant. Et ben c'est ça que tu ressens quand tu fais un bide, c'est la salle du temps, il y a rien. C'est la galère, c'est un entraînement, t'essayes de réfléchir à comment tu peux faire quelque chose de mieux, et le temps passe lentement.
Ok.
C'est la meilleure analogie de bide que j'aurais à proposer en 2022.
Est-ce que ton documentaire, le fait de rencontrer plein de gens de partout, ça a changé ta façon de bosser ou de voir le stand-up ?
Ben... pas vraiment le documentaire, mais tous les voyages que j'ai faits qui m'ont inspiré le documentaire, ça a quand même changé ma façon de voir le stand-up parce que ça m'a beaucoup encouragé à être indépendant. Parce que j'ai vu qu'en Angleterre, ils avaient pas du tout les mêmes manières de procéder. Ils marchaient beaucoup avec des managers et des tour managers. Et donc, en fait, le système, c'est souvent... il y a un artiste qui est là, il y a ton tour manager qui va booker la salle, qui va faire de la promotion, qui va t'avoir une PR, une presse personne là, et ils prennent 20%. Donc c'est rien à voir avec la France. C'est-à-dire que je sais pas comment, en fonction des productions, les contrats, les gens en France, les comiques peuvent être salariés, etc. En Angleterre, c'est extrêmement libre en même temps. Je trouve que c'est peu 20%. Et donc, tout le monde est très, très libre tout le temps. Mmh. Et ils organisent tout en deux secondes. Et ils sont très réactifs et malléables. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Donc ça, ça m'a beaucoup impressionné. Le Festival d'Édimbourg que j'ai fait, où j'ai joué une heure en anglais pendant 26 shows. À chaque fois, j'allais voir des shows en plus. Bah, ça m'a vachement impressionné parce que j'ai vu des gens qui arrivent en t-shirt dans des salles d'amphi de fac, reconverties en salles de classe, mais pleines. C'est des célébrités, tu vois. Par exemple, une fille comme Sarah Kendall, qui était tout le temps sold out, qui était tout le temps complète, elle raconte des histoires. Mais il y a quasiment pas de blagues, quoi. Il y a genre 5 ou 6 blagues. Et elle raconte des histoires et c'est passionnant. Et les gens sont à fond. Et je me suis dit, non, mais une autre forme, encore plus basique que le stand-up, peut attirer du monde. Il y avait un mec qui faisait des poèmes de comédie, qui était hilarant. Toutes ces formes-là m'ont beaucoup plu. On voit des choses qui sont des essais et qui sont artistiquement assez engagées. Et ben, en France, je te parle de ça, c'était en 2014. En France, en 2014, ben, on n'était pas vraiment à des essais engagés, artistiques, étranges.
On était encore aux blagues misogynes, je pense.
Je pense aussi.
Ouais.
Mais ça évolue, ça avance. Et je pense que les tellement de passionnés de stand-up et d'art de scène que les choses vont évoluer et que tout le monde a envie que ça évolue en plus. Donc c'est cool qu'il y ait des chemins vachement différents les uns des autres. Et l'Angleterre, aller en Estonie, me retrouver dans une BMW avec la vitre brisée, fêlée, dans la neige, faire confiance à un gars que je ne connais pas pour aller dans un show qui est dans une boîte de nuit. Non, c'était en Lettonie en plus. C'est-à-dire que l'Estonie, c'est un peu plus funky. La Lettonie, il y a vraiment un côté, on sort encore de la pression de l'ancienne URSS, tu vois. Et ben, aller là-bas, jouer, que ça se passe super bien, me taper des bars avec eux et jouer en anglais et faire rire des gens de là-bas, ben, ça m'a pas, je me suis pas dit, waouh, c'est incroyable. Je me suis dit, putain, c'est fou. En fait, le monde est grand. Le monde est vaste, la France, c'est petit, et en même temps, tout est proche, mais on peut penser différemment, et il faut croire en l'existence d'autres manières de penser, quoi. C'est un truc qui est dur à se rappeler quand t'es à fond dans une promotion et que tu dois enchaîner tous les trucs avec ton attaché de presse, mais c'est un truc qui existe. C'est ça qui m'a changé par rapport à ça.
Et le fait de jouer en anglais, ça te donne envie d'essayer de jouer un peu plus à l'international par la suite ?
Ben, je l'ai fait pas mal. Hein. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays. Par contre, avoir une carrière financièrement viable, ça, c'est un autre paire de manches parce que c'est des investissements. Moi, j'ai joué... en tout, j'ai fait 18 pays en français et en anglais. Donc, du coup, moi, je suis très content de me rappeler ça. J'aime bien me dire que je peux rejouer dans des pays en anglais quand j'aurai envie. Parce que j'aimerais bien faire une captation d'un show en anglais, par exemple, dans le futur, pour avoir une trace de ce que j'ai fait. Mon anglais, il est correct, mais il est pas incroyable, tu vois. Mais ouais, ça m'a vachement plu. Après, j'ai essayé à un moment donné, j'avais un agent à Londres, j'avais des représentants là-bas.
des trucs... représentants.
Mais c'est vrai, c'est des gens qui en quelque sorte te représentent. Mmh. Et tu dis, bah voilà, est-ce que c'est possible de me trouver des dates? Et eux vont dire, ok, on parlera en ton nom, mais on va chercher où on peut, quoi. Les gens qu'on connaît. Tu sais, les gens venaient pas me voir pour me dire, Yacine, est-ce que tu veux jouer en Russie? C'est eux qui m'ont dit, bah voilà, nous, on a des possibilités. Voilà le panel des gens qu'on connaît. Et est-ce que ça te dirait de faire tel ou tel show? C'est grâce à eux que je me suis retrouvé dans une petite ville en Allemagne, à Rendsburg, où j'ai fait un des plus beaux beats de ma vie.
Ah ouais.
En anglais, ouais, c'était magnifique. Mais c'était magnifique aussi. Franchement, c'était incroyable. J'ai joué dans un show de village, en fait. En fait, c'est pas un show de village, je dis mal. C'est un show ambiance province, dans le sens, c'est plusieurs villes qui viennent se réunir pour voir un show dans cette ville-là.
Ah oui, oui, oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Province allemande en plus.
Allemande, voilà. Donc, on est en région, on est avec des gens très locaux. Et ce gars-là fait des shows à la Patrick Sébastien. C'est vraiment le Patrick Sébastien allemand, pour moi. Adorable. J'étais bien payé, j'ai été super bien reçu. Sauf que le panel des artistes, c'est casse-gueule même si tu parles allemand.
Ah ouais.
Et moi, j'étais le seul qui parlait anglais. Et j'étais français. Donc, j'ai fait mon passage. Vraiment, les gens m'ont dit non, merci. C'est très gentil. Hein. Ils ont été très polis.
Mmh.
Mais ils m'ont dit, c'est très gentil. Mais voilà. J'ai pas senti de colère ou tu vois. Mais parce que il y avait quoi? Il y avait un cracheur de feu. OK? Il y avait un clown. Clown. Il y avait quelqu'un qui jonglait, tu vois.
Ouais.
Il y avait un comique allemand, effectivement, mais qui semblait faire du cabaret politique. Il y avait une drag queen qui était déguisée en alien avec un iPad sur le torse, avec, tu sais, la queue dans Alien 3, et avec des lasers partout sur le corps, des lasers verts qui étaient envoyés, et il y avait de la fumée, donc tu voyais les lasers verts, et sur les tétons, elle avait, non, sur le pénis, enfin l'endroit que moi, pour moi, pénis, sur le pubis, elle avait un laser rouge, d'accord ? Donc drag queen qui chante méga bien, qui chante ultra bien, qui fait des notes de ouf. C'est super, mais c'est tellement différent de tout le monde que c'est vraiment un truc de cabaret. Et moi, je me marie mal avec ces moments de cabaret. Même quand je vais dans des soirées d'humour, même à Paris, où c'est un peu trop cabaret, ça va, où ça parle trop avec les gens, où on est trop en mode, je sais pas comment dire, one man show, un peu à l'ancienne. Ben, s'ils comprennent pas et s'ils aiment pas une personne qui parle tout seul et qui leur adresse la parole et qui parle un peu de choses avec une énergie un peu plus basse, ça passera pas.
Okay.
Mais j'ai kiffé, hein. Donc voilà, donc j'ai vécu des expériences cheloues.
T'es quand même plutôt quelqu'un d'introverti.
Ouais.
Du coup, ça t'a coûté beaucoup de faire un docu où justement tu vas parler aux gens, tu vas vers eux, ou est-ce que le fait que ce soit codifié, c'est beaucoup plus simple?
Ben, en fait, ça coûte pas trop d'aller parler à des humoristes parce qu'ils sont eux-mêmes très chelous. Donc en fait, comme tout le monde est chelou dans l'équipe, en fait, on se connaît. Et c'est ça qui est bien que tout le monde dit. Moi, je me sens toujours à l'aise à parler à des comiques parce qu'ils sont... ils ont un problème mental, quoi. Ça va pas, mais c'est OK. Ça va pas, mais c'est OK. Et on est tous bizarres. Mais on est gentils dans le fond parce que tu vois, quand tu parles avec eux, ils ne sont pas de... Il n'y a pas de protocole trop compliqué. Au bout de quelques minutes, tu as les mêmes bases que tu peux avoir avec des humoristes belges, français, etc. Dans le podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Bill Burr. Et c'est ce qu'il disait sur l'Inde. Il a été en Inde et il disait, au bout de quelques minutes, il a eu l'impression d'être avec des humoristes comme aux États-Unis, quoi. Même ambiance de loge. Tout le monde se pose les questions, genre vous aussi aux États-Unis vous avez des gars, ils remplissent des salles super grandes, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas du tout normal que ce gars-là soit aussi connu alors que ses blagues sont éclatées au sol. Et c'est fou, quoi, t'as les mêmes conversations.
Ok. Et j'ai quelqu'un sur Twitter qui demandait, parce que quand j'ai dit que je faisais un podcast avec toi, qui demandait pourquoi t'aimes Bill Burr alors que c'est un peu un des humoristes qu'on aurait tendance à opposer à toi, j'ai l'impression.
Ah ouais,
ouais.
Ah, je sais pas pourquoi on l'opposerait à moi, mais moi j'aime bien Bill Burr parce que c'est quelqu'un, je pense, qui en a chié énormément pendant sa carrière. C'est quelqu'un qui commençait en 1992 à New York, et de tout ce que j'ai entendu dans sa manière de raconter sa vie, c'est quelqu'un qu'on a vraiment, vraiment bavé, quoi. Et j'aime bien les axes qu'il a, qui sont très provocants. Et je trouve qu'il est extrêmement doué pour tenir des foules, quoi. Moi, je l'ai vu quand j'avais fait l'interview, justement. J'ai vu faire des trucs avec la foule que j'ai jamais vu personne d'autre faire. Alors, moi, j'étais le voir dans un endroit où il y avait beaucoup de blancs. Que des blancs dans la salle. Et je sais plus, il disait un truc très gratifiant pour les blancs. Tu vois, un truc genre... je sais plus ce qu'il a dit en vrai, hein, tu vois. Mais c'était genre un truc où les gens pouvaient se sentir bien dans leur peau d'être blancs. Mmh. C'est un truc, je sais plus quoi. Pour les faire kiffer un peu. Et tout le monde dans la salle, si t'avais une réaction de... Oh, tu sais, rigoler un peu à la blague en disant « Ouais, j'avoue. » Et après, il leur a mis une balayette. Et c'est vraiment la première fois que j'ai entendu une foule rire. Et rire en même temps de dire « Ah ouais, quand même, on est des connards. On est vraiment des grosses de mer. » Tu sais, de faire un mouvement de haute vague de plaisir et de faire « Ah ouais. » Tu vois. Ouais. Et moi, je le trouve hyper fort. Donc moi j'aime bien Bill Burr. Après je peux comprendre que c'est quelqu'un qui trigger énormément les gens. Ça vraiment je l'entends. Je peux comprendre que ce soit violent pour des gens de ce qu'il peut dire. Mais techniquement à plein d'égards et aussi par la position qu'il a en général dans la vie, quelqu'un qui a essayé de suivre son chemin, qui est pondéré. Quand tu le vois dans les podcasts avec Joe Rogan. Joe Rogan, des fois, essaye de l'emmener quelque part et dit, j'irai pas là-bas, mec. Mmh. Tu vois? Et pour moi, c'est une preuve de courage de faire ça. Parce qu'il pourrait très facilement suivre Joe Rogan en disant, mais oui, je te suis, mon pote. T'as raison. Le vaccin, on sait pas. Mmh. Et il dit juste, j'irai pas là où tu veux m'emmener parce qu'en fait, j'essaye de suivre l'opinion que j'ai, moi, de la situation qui est très, très compliquée. Et voilà. J'essaye de m'améliorer vis-à-vis de ça. Je l'ai vu en spectacle. Donc ça va peut-être pas plaire à personne qui a tweeté. Je l'ai vu en spectacle, moi, j'ai été le voir à Montréal. Et encore une fois, j'ai été très impressionné.
Ah mais la personne disait pas ça en mode il est nul, hein. C'est juste, quelles sont les choses qui te plaisent dans ce qu'il fait?
Bah là, je l'ai vu en spectacle au Centre Bell.
Ouais,
énorme. Je m'attendais, hein.
C'est un des plus gros trucs de
Montréal. Ouais, je crois que c'est 21 000 personnes.
Putain, c'est ridicule.
C'était complet. Donc je l'ai vu au Centre Bell, je m'attendais vraiment à pas passer un bon moment. Mmh. Mais comme Bill Burr il vient pas en France, ben j'étais là, moi j'aimerais bien le voir en vrai. Enfin c'est con, mais le stand-up, moi j'aime bien le voir en vrai, quoi. Après je me dis ça va être nul dans un stade et tout. Et je déteste, j'ai peur des gens. Enfin c'est la foule. En plus on était, moi j'étais tout en haut parce que c'était méga cher, donc j'ai pris une place à ma portée. Et j'étais méga haut, sa grand-mère, haut de ouf. Ça fait peur, et tu sais, j'étais terrifié. Enfin, est-ce que tu peux tomber? Tu sais, même là, je me dis, quelqu'un qui veut arrêter tout, il peut le faire. Mmh. Genre, enfin, je sais pas comment dire, que quand tu vois si t'as le vertige là-bas, t'es en PLS, quoi. Pas de protection, pas de rambarde. Enfin, voilà, quoi. Faut voir la scène. Je te promets, Bill Burr, il est arrivé et il a provoqué la foule. Il s'est moqué d'eux. Il les a tenus en haleine. Il n'est pas allé dans leur sens du tout. Il a fait une très bonne blague sur le Canada. Comme quoi, oui, ok, vous êtes les meilleurs blancs. On a compris. Vous êtes les meilleurs blancs du monde. Eh oui, parce qu'ici, c'est super. Voilà. Il dit, mais je veux juste vous dire un truc. Vous êtes les meilleurs blancs du monde juste parce que vous êtes les blancs les plus proches de nous et que c'est par comparaison avec les États-Unis. Donc, vous êtes les meilleurs blancs parce que vous êtes collés à nous, les gars. Et la même sensation d'outrage et d'énervement de la part des... Parce que les Canadiens sont très chauvins, sont très représentants de leur bled et tout, le Canada. Tout le monde dit que le Canada, c'est génial. Et c'est vrai, c'est génial. Donc oui, aux États-Unis, disent tous, faudra qu'on aille au Canada pour se faire soigner, tout ça, tout ça. Eh ben, ça les a énervés et ils ont quand même rigolé. Et la sensation était folle et... La sensation en général était électrique. Et je suis pas resté jusqu'à la fin parce que j'avais peur de la foule. Mmh. Je suis parti, j'ai dû rater 15 minutes. Je pouvais pas, j'avais pas envie de me retrouver dans le stade avec 21 000 personnes qui sortent en même temps. C'était pas OK pour moi. Mais jusqu'au moment où je suis resté, je pensais que j'allais partir avant. Hein. Et ben, c'était électrique. Ça faisait des réactions de comedy club. C'est-à-dire que les réactions étaient dingues. Il y avait des rires, il y avait des hurlements, il y avait des gros mots, il y avait tous les gens, ils étaient énervés, après ils étaient contents. Il y avait des gens qui se levaient, qui allaient chercher des bières et tout. C'était ultra électrique. Et je m'attendais à me faire chier vraiment. Et il a réussi à le faire, alors que je le voyais, tu sais, en tête d'épingle, quoi. Ouais. Donc ouais, franchement, m'a pas déçu. Et pour les gens qui aiment pas Bill Burr, essayez de regarder le truc à Philadelphie, ce qu'il a fait à Philadelphie, là où il s'embrouille avec toute une foule qu'il a eue pendant 12 minutes, parce qu'en fait la foule a hué une meuf juste avant, et que c'était une meuf qui avait pas beaucoup d'expérience de stand-up, et donc lui, en fait, ça l'a réellement, sincèrement énervé. Et il savait qu'il allait la tuer, tu vois. Donc il est monté après cette meuf-là, et il les a, mais dégommés. Il a passé 12 minutes à insulter Philadelphie. Pourquoi? Parce que toute la foule de Philadelphie, ben, huait. Et disait, vraiment, vous avez pas de race, quoi. Vous êtes horrible de faire ça. Et il disait, vous avez rien chez vous. Vous avez une statue de quelqu'un célèbre. C'est Rocky Balboa. C'est même pas quelqu'un qui existe pour de vrai. La personne que vous vénérez, c'est un personnage de fiction. Si vous êtes vraiment des débiles. Et en fait, il a cette capacité à être en colère très rapidement. Parce qu'il a eu des problèmes, enfant. Tu vois, il sait pas gérer sa colère. Et donc, il la met dans le stand-up, cette colère-là, et il en fait quelque chose de flamboyant, quoi.
Je vais checker l'heure qu'il... Ok, on va pas tarder.
Faut qu'on aille raconter des blagues, là.
Oui. Hier, tu as dit un truc, 40 ans, c'est la meilleure période de la vie.
Ben, en tout cas, là, pour l'instant, moi, je suis content de mes 40 ans, tu vois. En fait, je sais qu'à 31 ans, j'étais triste parce que je vieillissais. Et là, à 40 piges, franchement, je suis très content, j'ai des cheveux blancs, je fais un métier que j'aime beaucoup, j'ai des potes, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui se passe en ce moment que je rejette pas, quoi, que j'embrasse pas mal parce que, en fait, j'accepte, quoi, tu vois. Et franchement, je suis bien, je suis content avec tout ça, quoi. Je pensais pas, parce que j'entendais les gens dire, ah, la crise de la quarantaine, tu vas voir et tout. Ça se trouve, je l'ai pas encore faite, tu vois. C'est à 42 ou 41. Mais pour le moment, moi, j'ai beaucoup de gratitude, pour l'univers, quoi, pour le temps qui passait, tous les cheveux blancs, c'est OK.
Dernière question. Les chaussettes, quid?
Les chaussettes, on va en refaire quelques épisodes sur YouTube avec Dedo très prochainement, et on espère une super bonne nouvelle pour 2023, encore plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut. C'est la loi du, je sais plus quoi, c'est une vieille chanson, la loi du mélo. Je suis plus sûr que ce soit ça, toujours plus loin, toujours plus haut. Mais ouais, les chaussettes, nous on est trop contents. Merci à tous les gens qui ont soutenu Forever. Vous êtes des petits choux d'amour, parce que avec Dedo, c'est notre bébé, et on va faire 5 nouveaux épisodes pour YouTube et peut-être des super bonnes nouvelles.
Allez, c'est important pour toi de faire plein de choses en dehors du stand-up, parce que tu fais de la mise en scène, tu écris des séries, tu écris plein d'autres formats. Est-ce que t'as besoin de ça pour te nourrir, ou est-ce que c'est juste les opportunités qui se présentent et...
Ben, comme je suis en Inde, c'est un peu les deux. Les opportunités qui sont aussi des opportunités pour permettre de vivre, tu vois. Et aussi, le fait de faire d'autres choses me permet d'apprendre d'autres choses et de reposer le cerveau du stand-up. Parce que on peut commencer à trouver ça trop, ça prend trop de place. Et comme pour tout, quand on a trop le nez dedans, on n'est pas forcément le meilleur juge pour prendre des décisions, changer des choses. Alors quand on prend un peu de recul, on voit les choses avec un peu plus de clarté, et ça aide bien souvent à faire des bons choix. Donc, ou à faire des choix déjà de base, parce que des fois je sais même plus si c'est drôle, pas drôle, qu'est-ce que je fais, au secours. Après tu demandes l'avis aux gens, et bien que les gens soient hyper sympas, tout le monde a des avis méga différents, donc ouais, faire des autres activités, ça repose l'esprit, et puis en plus on rencontre plein de gens, c'est trop bien. Moi quand je fais de la mise en scène, j'apprends le boulot d'autres gens, enfin tu sais, ça calme, quoi. Calmos avec les blagues, vous êtes cool les gens des blagues, mais tranquille, il y a plein de métiers qui sont durs. Moi j'adore évidemment donner des ordres. Non, en plus j'aime pas ça, mais des fois les gens ils aiment bien quand je m'énerve, quand j'ai fait Montreux là.
Tu sais, les gars, on se concentre là. Tu tiens ton parapluie.
Ah ouais.
Tu fais le tourner.
Ouais, exactement. Après ils voulaient en faire un sketch, tout. C'est là, c'était marrant quand tu t'es énervé. Je dis bah ouais, mais moi j'étais en PLS parce qu'il y a l'équipe du son, de la lumière, on a un temps prédéfini et tout. Après si on rate le salut, on se fout la honte. J'étais là, non, bon, vous faites tourner parapluie en haut, d'accord, chacun saute en... Et tout le monde se moquait de moi. Mais c'était Roma, franchement, c'était Roma. J'aime bien, j'avoue, c'est stressant. J'avoue, c'est stressant et ça peut révéler des mauvais côtés de moi-même. Moi, quand je suis trop stressé, que j'ai trop peur, je peux être vraiment cassant et relou, tu vois. Mais en vrai, j'aime bien faire de la mise en scène, j'aime bien faire de l'écriture, j'aime bien aider les gens, j'aime bien faire des masterclass. Ça me plaît beaucoup de faire ça et en plus, ça me permet d'avoir d'autres sources de revenus. Donc, les deux ont du sens pour moi.
Ok, cool. On va faire des blagues, hein.
Eh ben, let's go. Eh, on va raconter les blagues, les gens. Suivez-nous sur Instagram. Hein. On est super marrants. Suivez Fanny Ruel, suivez Yacine Bellous. On va rigoler, les amis. On a des blagues incroyables qu'on prépare ce soir pour l'année prochaine.
On va publier des vidéos d'impro.
Ah ouais, oh nous, là c'est là. Les impros. Nous, c'est les impros et l'actu. On est dans les impros et l'actu. Allez.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent pour n'en rater aucun. Et puis évidemment, ça m'aide énormément si vous mettez des étoiles, des commentaires sur Apple, Spotify ou si vous partagez le podcast. Dans la description, vous trouverez des liens pour suivre Yacine Bellous, aller le voir en spectacle et regarder ses vidéos ou son documentaire sur le stand-up. Je glisse également de quoi me suivre moi sur les réseaux, @FannyRuet si vous voulez. Il y a des chroniques, il y a des podcasts, il y a des vidéos qui sortent assez régulièrement. Et puis évidemment, il y a la tournée qui a repris. Toutes mes dates sont sur fannyruet.com. Et puis je précise, comme d'hab, que cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu, à qui l'on doit également ce nouveau générique. Des bisous!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.